Chapitre 28. Il ne faut pas la plaindre, affirmai-je. Nous avions quitté la zone des restaurants, laissant derrière nous une écœurante odeur de friture, et nous descendions les escalators vers la sortie du Prudential Center. Ma sœur n'est pas comme vous et moi. Elle ne crée pas de lien. Elle n'éprouve pas d'empathie et ne trouve pas de réconfort auprès des autres, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'elle en souffre forcément. En fait, elle ressentirait la même chose au milieu d'une pièce bondée ou même dans les bras d'un homme qui se dirait amoureux d'elle. Cela fait partie de son trouble de la personnalité. Autrement dit, le confinement en cellule individuelle n'est pas vraiment une punition dans son cas, demanda Didi. Oui et non. Ce qui lui manque, ce n'est pas la compagnie des autres, mais la stimulation. Elle ne souffre peut-être pas de sa solitude, mais elle s'ennuie.
Pas assez pour changer de comportement, constata Phil.
Le changement nécessaire serait trop profond. Les troubles de l'attachement sont excessivement difficiles à traiter. C'est avec les patients de moins de 5 ans qu'on a les meilleures chances de réussite. Étant donné que Shana a passé toute son adolescence et toute sa vie d'adulte derrière les barreaux, c'est vrai qu'elle a mélangé du sang à sa compote de pommes ? Demanda Didi. Pour le plaisir de choquer, lui expliquai-je. La directrice lui avait attribué un nouveau conseiller, ce qui, vu la vie sociale très limitée de Shana, revenait à lui offrir une nouvelle proie. Shana a raconté à ce type qu'elle était la servante du diable et que mélanger du sang à sa compote faisait apparaître des motifs qui lui permettaient de prédire l'avenir. De voir, par exemple, qu'il serait mort avant la fin du mois. Alors quand il a fait une crise cardiaque à peine 3 semaines plus tard... Incroyable ! Dit Didi en s'arrêtant net. Pas vraiment une crise cardiaque, la rassurai-je. Une attaque de panique, très probablement déclenchée par les 3 heures hebdomadaires qu'il passait en compagnie de ma sœur. Inutile de vous dire qu'il a pris sa retraite. Et que ma sœur s'est remise à mijoter de nouvelles manières de se divertir.
Comme d'entrer en relation avec un tueur, suggéra Phil.
Je ne savais plus quoi dire. D'un seul coup, je me sentais vidée, lessivée, déchirée entre ce que je comprenais de ma sœur d'un point de vue professionnel et ce que j'avais envie de ressentir à son sujet d'un point de vue personnel. Comme quoi, ce n'était pas parce que j'étais insensible à la douleur que ma famille ne pouvait pas me faire souffrir. Elle rêvait de moi. Elle murmurait mon nom. Ma grande sœur. Nous n'avions passé qu'une poignée d'années ensemble. Une chez nos parents, deux dans diverses familles d'accueil. Et pourtant, nos vies étaient inextricablement liées. Vous avez déjà joué au jeu du bar ? Demandai-je. Les deux enquêteurs s'étaient immobilisés. Nous nous trouvions au pied du Prudential Center, sur un trottoir noir de passants, dont les flots s'écoulaient autour de nous. Un après-midi dans le centre-ville de Boston. Des banlieusards, des touristes, des habitants du quartier, qui tous vaquaient à leurs très importantes occupations. Pendant que nous parlions meurtre, avec l'air vif de cette fin d'automne sur nos joues, et le soleil qui pensait déjà à décliner. Le jeu du bar, répétai-je. On y jouait tout le temps quand j'étais étudiante en psychiatrie. Vous allez dans un bar? Vous observez les consommateurs et vous devinez la vie de tous les habitués. En tant que futur médecin, on se faisait une fierté d'interpréter leur langage corporel. Vous êtes enquêteur. J'imagine que vous devez aussi être très fort. Didi et Phil me regardaient, sans avoir l'air de comprendre où je les emmenais. D'accord, nous aussi on aime les jeux de bar, finit par répondre Didi. Et alors ? Je parie que vous repéreriez à 3 kilomètres le type fraîchement divorcé. Forcément. Ma sœur aussi. Un silence. Et je les vis tirer les conséquences de ce qui venait d'être dit. D'après vous, conclut Phil, elle a deviné que Frankie était en plein divorce rien qu'en l'observant. Pas bien sorcier. Jusque-là, il venait au travail avec son casse-croûte, emballé par sa femme. Il ne le fait plus. Jusque-là,
Il portait un uniforme tout propre, lavé par sa femme. Ce n'est plus le cas. Et puis, il modifie ses habitudes. Se met à passer toute la nuit au pénitencier alors qu'il n'est pas de service. Un type avec une réputation de misogyne comme Frankie devait être marié avec une femme au foyer qui pourvoyait à tous ses besoins. Une femme qui faisait le ménage, la cuisine, aux petits soins pour lui. Donc, le jour où elle a pris ses clics et ses claques, l'impact sur la vie de Frankie ne pouvait que sauter aux yeux. Dans un bar bondé, j'aurais su le décoder. Et vous aussi. Alors pourquoi pas ma sœur, qui n'avait rien de mieux à faire de ses journées? Ils examinèrent la question. Mais elle n'était pas seulement au courant de sa récente séparation, fit remarquer Didi. Peut-être qu'elle avait glané de précieuses informations en écoutant les bruits de couloir. D'autres ont laissé tomber des allusions. Elle les a ramassées. Et puis, tout est dans le ton. Il s'agit moins de savoir réellement que de donner l'impression qu'on sait. Christy a appelé ça du vaudou. Le plus probable, c'est que ma sœur est simplement très douée pour les tours de passe-passe. Elle écoute, elle analyse, et boum, elle frappe. Elle aurait écouté et analysé le deuxième surveillant, Richie, au point qu'il se serait laissé tuer, s'étonna Phil, la mine soucieuse. Je crois qu'elle a vu qu'il avait une conscience. Le reste ne devait pas être très difficile. Vous voulez dire que vous seriez capable de le faire ? Demanda Didi, comme par défi. Sauf que, moi aussi, j'ai une conscience, lui rappelai-je. Me rappelai-je à moi-même. Vous pensez que Christy disait peut-être vrai ? Reprit Phil. Votre sœur aurait manœuvré ses deux surveillants, et peut-être même qu'elle aurait obtenu du troisième, Howard, qu'il se tue en voiture. Mais ce ne serait pas grâce à des informations venues de l'extérieur. Elle les aurait juste manipulées. Je crois que nous ne devrions pas attribuer trop de super-pouvoirs à ma sœur. On lui colle déjà assez de superlatifs comme ça. Et qu'est-ce qu'on en déduit ? Demanda Didi. Je pris une grande inspiration. Qu'elle ne l'a pas fait. Pas fait quoi ? Demanda Didi, sceptique. Tuer Donnie Johnson ? Assassiner une détenue, poignarder deux surveillants, manipuler le tueur à la rose ou tout ça à la fois ? Elle n'a pas tué Donnie Johnson, répondis-je. Et à l'instant où ces mots franchirent mes lèvres, je sus qu'ils étaient justes. Toujours cette histoire de projection, vous voyez ? Les trois meurtres au pénitencier, ceux sur lesquels nous avons le plus d'informations, avaient tous le même objet. Protéger. C'est le facteur déclenchant chez Shanna. Voir un fort s'en prendre à un faible. Dans ce cas, elle s'identifie à la victime et intervient. Sauver cet enfant aujourd'hui, c'est sauver l'enfant qu'elle était hier. Même dans le cas de l'agression dont elle a été victime, cette détenue qu'elle a tuée dans un geste de légitime défense, c'est la même logique qui était à l'œuvre. Ça s'est passé au début de son incarcération, et cette détenue était plus grande et plus expérimentée. Là encore, un fort avait attaqué un faible.
Mais Donnie Johnson n'était pas un fort, remarqua Phil.
Non, Donnie était précisément le genre de personne qu'elle aurait eu envie de protéger.
Alors que s'est-il passé ? Demanda Didi. Je secouai la tête. Je ne sais pas. Shanna a plaidé la légitime défense en prétendant que Donnie avait tenté de la violer. Franchement, ça n'a jamais tenu debout. Pas avec les centimètres qui les séparaient, et encore moins avec les personnalités qu'on leur connaissait. Donnie a été présenté comme un gentil matheux introverti, et Shanna comme une gamine des rues cruelle, qui l'a persuadé de se rendre à un rendez-vous dans l'unique but de l'assassiner. Pour le frisson du premier meurtre, si on veut. Devant un crime aussi odieux, il a fallu moins d'une journée au jury pour condamner une adolescente à la perpétuité. Voilà le genre d'affaire que c'était, le genre d'accusé que faisait Shanna.
Cet épisode remonte à 30 ans, rappela Phil. Votre sœur était une gamine, impulsive, en plein bouleversement hormonal, incontrôlable. Si ce meurtre était différent, c'est peut-être que votre sœur aussi était différente.
Les facteurs déclenchants ne changent pas, répondis-je simplement. On aimerait bien pouvoir les modifier aussi facilement.
Alors pourquoi n'a-t-elle pas davantage protesté ?
Demanda Didi.
Parce que c'est Shana. Parce qu'elle est réellement atteinte d'un trouble de la personnalité qui l'empêche d'avoir des relations normales avec autrui. Que ce soit son avocat, un juge ou des jurés. Il est aussi possible qu'elle ait déjà été dépressive à l'époque.
Je ne sais pas. Je ne l'ai revue que 10 ans plus tard.
Je ne connais pas la Shana de 14 ans.
Mais si elle était dépressive, le pire devait lui sembler probable. Alors, quand il arrive, à quoi bon lutter ?
Phil hocha la tête. Il semblait troublé.
Que ma sœur psychotique de 44 ans soit enfermée ne lui posait aucun problème. Mais repenser à l'adolescente, à l'enfance traumatisante qu'elle avait été, c'était plus pénible. À juste titre.
Et son avocat ? Demanda Didi.
Il a dû se battre pour une cliente de 14 ans.
C'était le meilleur qu'on pouvait avoir gratuitement, lui assurai-je.
Didi leva les yeux au ciel.
Par ailleurs, Charlize Garzi prétend avoir retrouvé des lettres de Shana à son cousin, mais je n'y crois pas non plus. Shana déteste les personnalités soumises. Jamais elle n'aurait été attirée par un garçon plus petit, plus jeune, plus vulnérable.
Il a des lettres ?
Qu'il aurait découvertes après le suicide de son oncle.
Vous croyez qu'il les a inventées pour vendre son bouquin ?
Je n'en avais aucune idée.
Peut-être qu'il existe vraiment des messages, mais qu'il les a mal interprétés.
Il pourrait s'agir d'une communication codée.
Ou alors ces lettres n'étaient pas du tout destinées à Denis. Lui n'était que le messager, ou alors...
Je m'interrompis, réfléchis.
Denis était intelligent, toujours le nez fourré dans ses livres, c'est ça ?
Peut-être qu'il tenait la plume pour Shana.
Elle-même n'était pas franchement une première de la classe. Encore aujourd'hui, son écriture, son orthographe.
Disons qu'un mot rédigé de sa main ne donne pas une image flatteuse de ses capacités intellectuelles.
Didi était toujours soucieuse.
Vous pensez qu'elle aurait tout manigancé ?
Dit-elle subitement.
Je veux dire, ces nouveaux meurtres, reprit-elle avec un moulinet de la main.
Vous avez entendu Christy. Shana croupit sous les verrous sans le moindre espoir de revoir la lumière du jour. Elle est intelligente, elle s'ennuie, elle a du temps à revendre. Pourquoi ne pas mijoter une série d'assassinats compliqués pour ensuite se donner le beau rôle ?
Il s'est passé plus de 10 ans depuis qu'elle s'est posée en héroïne en zigouillant Frankie machin chose d'une centaine de coups de couteau. Maintenant elle peut s'attaquer au tueur à la rose. Un peu de chair fraîche, comme vous dites.
Je n'étais pas d'accord.
Je crois que vous étiez dans le vrai ce matin. Il y a un lien entre le tueur à la rose et ma sœur. Mais ce n'est pas Harry Day, c'est Denis Johnson. C'est ce qui s'est réellement passé il y a 30 ans. Le secret que le tueur à la rose ne veut pas que Charlize Garzi déterre.
On en revient à Charlize Garzi, constata Didi avec un coup d'œil vers Phil.
Non, la corrigeai-je, ce qui me valut un regard noir. Il n'a pas encore découvert le secret. C'est bien le problème. Il faut trouver la personne qui le détient. Et pour ça, il se pourrait que je puisse rendre service. La dernière famille d'accueil de Shana habitait dans la rue des Johnson. Et il y a des chances que la mère ait gardé quelques souvenirs de ce gamin. Or, il se trouve que j'ai son nom et son numéro de téléphone.